Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le Capital, tome 2, livres 2 et 3, réunit les deux parties posthumes de la grande critique de l'économie politique menée par Karl Marx. Le livre 2, édité par Friedrich Engels en 1885 depuis les manuscrits laissés par Marx, déplace analyse depuis atelier vers la circulation du capital. Il étudie les formes argent, production et marchandises, ainsi que les conditions nécessaires au renouvellement du procès économique. Le livre 3, publié par Engels en 1894, examine comment la plus-value prend des formes visibles telles que profit, intérêt, rente foncière et prix de production. Cette édition de poche, associée au travail éditorial et traductif de Maximilien Rubel, propose donc une architecture essentielle de la théorie marxienne du capitalisme. Il ne agit ni d'un manuel neutre ni d'une prédiction mécanique, mais d'une enquête conceptuelle sur les rapports sociaux qui organisent production, échange, concurrence et accumulation. La difficulté du texte vient de son ambition systématique, expliquer les mécanismes généraux derrière les phénomènes familiers du marché. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le cycle du capital relie argent, production et vente. Le livre 2 analyse le capital non comme une somme immobile de richesse, mais comme un mouvement qui doit sans cesse traverser plusieurs formes. Le capitaliste avance de argent pour acheter moyens de production et force de travail. Dans le procès productif, ces éléments produisent des marchandises porteuses de valeur accrue. La vente doit ensuite reconvertir ces marchandises en argent afin que le cycle recommence. Cette séquence permet de comprendre pourquoi produire ne suffit pas. Une entreprise peut posséder des machines, des stocks et des salariés tout en rencontrant des difficultés si ces marchandises ne se vendent pas, si les paiements tardent ou si les approvisionnements manquent. Marx met ainsi au premier plan le temps de rotation du capital. Plus le capital demeure longtemps sous forme de stock, de matières premières ou de créances, plus son renouvellement est ralenti. Le livre distingue aussi capital fixe, engagé durablement dans les bâtiments et machines, et capital circulant, continuellement avancé puis récupéré. Cette analyse refuse de réduire le profit à un résultat comptable isolé. Elle montre que la valorisation dépend de la continuité de opérations reliées entre elles. La circulation apparaît alors comme une condition matérielle et sociale de l'exploitation étudiée principalement dans le livre 1. Non comme une simple étape technique après la production. Deuxièmement, la reproduction sociale exige des proportions entre secteurs économiques. Une contribution centrale du livre 2 réside dans les schémas de reproduction du capital social total. Marx ne considère plus seulement un capitaliste individuel, il demande comment une société capitaliste peut renouveler simultanément ses moyens de production, ses biens de consommation et ses rapports de classe. Pour clarifier le problème, il distingue un secteur produisant les moyens de production et un secteur produisant les moyens de consommation. Les produits de chaque secteur doivent trouver des débouchés correspondant aux besoins productifs et aux revenus dépensés dans l'ensemble de l'économie. Cette construction abstraite ne prétend pas décrire directement une économie nationale réelle. Elle sert plutôt à isoler une contrainte, les échanges entre branches doivent être suffisamment coordonnés pour que la production puisse recommencer à la même échelle ou sur une échelle élargie. La reproduction simple correspond au renouvellement sans accroissement général, tandis que la reproduction élargie suppose qu'une part de la plus-value soit transformée en capital additionnel. Cette dernière dynamique rend accumulation possible, mais elle impose aussi de nouvelles exigences de proportion. Si les investissements, les salaires, les marchandises et les besoins de remplacement ne concordent pas, les difficultés de réalisation peuvent se propager. Marx fournit ainsi des outils pour penser les déséquilibres sans les attribuer seulement à une erreur individuelle ou à une mauvaise décision commerciale. Troisièmement, la concurrence transforme la plus-value en profit moyen et en prix de production. Le livre 3 part d'une tension décisive entre la valeur et les prix observés. Dans le cadre marxien, la plus-value provient du travail non payé dans la production. Pourtant, les entreprises ne reçoivent pas nécessairement un profit directement proportionnel à la quantité de travail vivant employé dans leur branche. La concurrence et les déplacements de capitaux tendent à établir un taux de profit moyen. Les capitaux se dirigent vers les activités plus rentables, puis cette mobilité modifie les conditions de concurrence. Marx explique alors les prix de production comme des prix formés par le coût de production augmenté du profit moyen. Ce développement cherche à relier la théorie de la valeur à la diversité des profits sectoriels, plutôt que de traiter le marché comme un mécanisme indépendant des rapports de production. Il souligne aussi une différence importante entre les catégories vécues par les agents économiques et les relations analysées à un niveau plus profond. Pour un entrepreneur, le profit semble provenir du capital total avancé. La séparation entre travail payé et travail non payé devient moins visible. Marx nomme cette apparence une forme mystifiée du rapport social capitaliste. Le lecteur peut discuter les solutions théoriques proposées et leurs limites. mais la question demeure structurante : comment des rapports de production génèrent-ils des prix et revenus qui semblent ensuite les masquer ? Quatrièmement, le crédit. Le capital fictif et la finance amplifient les contradictions. Dans le livre 3, Marx examine le capital portant intérêt, le crédit et les marchés financiers afin de montrer que le capital peut apparaître comme une source autonome de revenus. Lorsqu'un prêteur reçoit un intérêt, il semble que argent engendre naturellement de l'argent. Marx insiste au contraire sur le fait que intérêt constitue une part de la plus-value produite dans le processus social de production. Le crédit facilite la concentration des ressources, accélère les paiements et permet de mobiliser des capitaux qui resteraient autrement dispersés. Il peut donc soutenir l'expansion économique, mais il éloigne aussi les titres financiers, les créances et les anticipations de leur base productive immédiate. Marx emploie la notion de capital fictif pour désigner des titres qui donnent droit à des revenus futurs sans constituer eux-mêmes un capital productif supplémentaire. Cela ne signifie pas que ces titres soient imaginaires ou sans effet réel. Leur prix, leur variation et leur circulation influencent concrètement les patrimoines, les décisions et la stabilité du système. La distinction sert à analyser pourquoi la prospérité financière peut coexister avec des fragilités dans la production et le commerce. Elle aide également à comprendre la place centrale de la confiance, de la dette et des anticipations dans les crises. Le propos ne fournit pas une théorie complète de chaque crise moderne, mais il établit un cadre critique pour examiner les médiations financières de l'accumulation. En dernier lieu, la rente foncière et la baisse tendancielle du profit révèlent les limites de l'accumulation. Le livre 3 élargit l'analyse des revenus capitalistes en étudiant la rente foncière. La terre ne résulte pas du travail humain, mais sa propriété privée permet aux propriétaires fonciers de prélever une part de la valeur produite dans agriculture ou dans exploitation des ressources. Marx distingue notamment les écarts de fertilité, de localisation et de conditions de production qui peuvent créer des rentes différentielles. Il analyse aussi la rente absolue dans le contexte de la propriété foncière. Cette étude montre que la répartition entre salaire, profit, intérêt et rente ne découle pas de qualité naturelle des choses, elle repose sur des rapports de propriété et de pouvoir. Le livre 3 traite également de la baisse tendancielle du taux de profit. Marx associe cette tendance au développement de la productivité et à une composition du capital où les moyens de production prennent une place relative croissante par rapport au travail vivant, source de la plus-value dans son modèle. Il ne présente pas une loi automatique conduisant mécaniquement à effondrement. Il examine aussi des contre-tendances comme la hausse du taux de plus-value, la réduction de certains coûts ou le commerce extérieur. Cette méthode est importante, les contradictions du capitalisme sont analysées comme des forces opposées, susceptibles de produire expansion, concentration et crise, plutôt que comme une simple trajectoire linéaire. En conclusion, ce volume convient surtout aux lecteurs déjà disposés à suivre une argumentation économique longue et conceptuelle étudiant en philosophie, économie politique, histoire sociale ou sociologie, mais aussi lecteurs voulant examiner directement une source majeure de la pensée anticapitaliste. Une familiarité avec le livre facilite fortement la lecture, puisque les notions de valeur, force de travail, plus value et accumulation y sont établies. Cependant, les livres 2 et 3 apportent un bénéfice intellectuel propre, ils déplacent attention depuis usine vers ensemble du système. Le lecteur y rencontre les problèmes de circulation, de rotation, de reproduction entre secteurs, concurrence, crédit, intérêt, prix et rente. Cette amplitude rend le texte utile pour distinguer les mécanismes théoriques des apparences immédiates du marché. Il ne faut pas le lire comme un guide de prévision économique, ni comme une doctrine dont chaque diagnostic historique serait définitivement confirmé. Son intérêt réside dans une méthode de critique qui relie catégories économiques et rapports sociaux, par rapport aux introductions contemporaines au capitalisme, souvent centrées sur des indicateurs, des politiques publiques ou des récits historiques. Le capital se distingue par son effort pour reconstruire les médiations entre production et circulation. Par rapport à des manifestes politiques plus brefs, il offre une analyse beaucoup plus patiente des formes du profit et de la propriété. Sa lecture exige du temps, mais elle fournit un vocabulaire rigoureux pour interroger les crises, la finance et la répartition des richesses. Si vous souhaitez soutenir Karl Marx, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.